Bonjour à tout le monde. Donc on va organiser un forum de discussion autour de la politique des patrons de l'automobile et du gouvernement, puisque ça se ressemble étrangement. Donc on va organiser ce débat autour des camarades de militants de lutte ouvrière dans les entreprises de Toyota avec Eric Pecker, qui nous va nous faire. Ils vont prendre la parole tour à tour pour chacun développer un aspect de cette politique-là. Donc un camarade de Renault, Olivier Augustin, de Renault Flins, un camarade de Jean-Pierre Mercier de PSA Poissy. Voilà. Et comme vous savez qu'il y a des grèves importantes en ce moment en Turquie, dans la ville de Bursa, donc il y a le camarade Ali Kaya qui travaille aussi à Flins, Renault, donc qui a eu des contacts et puis qui s'est rendu là-bas et qui nous racontera un petit peu l'ambiance et ce qu'il a pu apprendre de ces grèves-là. Donc en introduction ce débat, je voudrais juste rappeler le poids économique que peut représenter le secteur économique qui, de plus en plus, c'est pas une nouveauté, mais s'organise à l'échelle du monde. Tout d'abord, c'est un secteur qui, depuis des années, ne connaît pas véritablement de crise, même si dans certains pays, les ventes ont reculé. Au total, le marché mondial de l'automobile est en hausse constante. C'est à coup de 3% d'augmentation du marché mondial tous les ans, ce qui est énorme. Il est passé de 66 millions de voitures vendues en 2009 à aujourd'hui à 88 millions de voitures en 2014. Et les experts, alors on sait ce que ça vaut des experts, hein, mais c'est parce qu'ils peuvent ils se trompent souvent. Bon, enfin, bon, voilà, si on continue cette progression-là, ce qui n'est pas dit non plus, parce qu'il peut y avoir des reculs importants aussi, ça veut dire qu'ils prévoient tous 100 millions de voitures produites de par le monde et vendues tous les ans. Alors, une partie de cette croissance est due à l'explosion du marché chinois qui, en 10 ans, est passé de 5 millions à 23 millions de voitures, toujours en 2014. Ce qui fait que c'est la course des constructeurs déjà en place pour créer des partenariats avec l'État chinois et s'y développer. Bon, je prends l'exemple de PSA. C'est pas le plus gros parce qu'il a que 2 ou 3 % du marché chinois, mais ça lui a permis de créer 5 usines de montage et avec tout l'ensemble des usines qui vont avec, boîte de moteur, boîte de vitesse, etc., ça a fait un ensemble de 18 usines, dont une banque, parce qu'il faut quand même pas oublier la banque, qui a été faite en moins de 10 ans. Alors, cette industrie, on se le rappelle, est dominée par quelques grands groupes au niveau mondial. Ils sont moins d'une quinzaine. Qui sont des véritables trusts, employant à travers le monde des centaines de milliers de travailleurs et en fait des millions d'ouvriers. Alors, il est difficile de dire combien de travailleurs peuvent travailler soit directement par ces trusts, soit indirectement à travers la sous-traitance. Généralement, on dit qu'il y a un rapport de 1 à 3 entre les constructeurs et puis la sous-traitance. Mais une chose dont on est sûr, c'est que ça représente des millions de travailleurs et que c'est une force considérable. Je voulais dire que ces trusts-là aussi font des alliances entre eux. Hein. Alors, des partenariats, des fusions, et ça contribue à relier encore plus les travailleurs. Par exemple, pour l'assemblage de la Clio 4 à Flins, 80%, environ 80% des pièces viennent de Turquie. Voilà, là où aujourd'hui les travailleurs de Bursa Renault sont en grève. Alors, on constate qu'il y a dans le secteur de l'automobile une mondialisation de plus importante à tous les niveaux, que ce soit au niveau des marchés, comme je viens d'en parler, au niveau des interprétations des trusts entre eux, des différents pays, et au niveau de l'organisation technique, industrielle, de la sous-traitance, etc. Alors, la première conséquence pour des militants révolutionnaires de cette mondialisation, c'est l'internationalisation de la classe ouvrière. Moins que jamais, l'heure n'est au repli des travailleurs dans le pays où ils travaillent ou dans l'usine qui les exploite. C'est une donnée fondamentale qu'il faut intégrer pour ne pas faire fausse route. Car ce qui est sûr, c'est que plus le capitalisme se développe à l'échelle internationale, plus il développe la classe ouvrière et la renforce objectivement. Rien que dans l'industrie automobile, ce sont donc des milliers de travailleurs à travers le monde qui représentent à eux-mêmes une force importante. Tout le problème, c'est qu'ils en prennent conscience. Et c'est dans ce sens-là que les militants révolutionnaires doivent œuvrer. Alors, je vais... Donc, camarade Eric de Toyota.
Bonjour à toutes et à tous. Pour les travailleurs de l'usine Toyota d'Onin, près de Valenciennes dans le Nord, l'année a été marquée une fois de plus par une augmentation de l'exploitation. Tout au long de l'année, la direction de l'usine a multiplié les attaques contre les salariés. Postes de travail supprimés dans tous les ateliers. Heures supplémentaires en fin d'équipe obligatoire et quasi quotidiennes. Samedi travaillé. En avril dernier, à l'occasion d'une diminution de la production, la direction a licencié plus de 300 intérimaires et elle a réorganisé les postes de travail en les surchargeant comme jamais ils n'ont été. 12% de productivité gagnée en un coup, comme s'en est vanté il y a 3 semaines un directeur lors d'une réunion sur les conditions de travail. L'augmentation de l'exploitation, en plus de la dégradation des conditions de travail, passe aussi par un quasi-gel des salaires. Avec 0,3% d'augmentation générale et des primes en baisse, la réalité pour la grande majorité des 3100 salariés en CDI et des 600 intérimaires de l'usine, c'est un pouvoir d'achat en baisse. Quant aux bénéfices réalisés par le groupe au niveau mondial, après avoir doublé l'an dernier, ils ont battu un nouveau record cette année. 16,7 milliards d'euros, près de 20% d'augmentation. Et tout cela en vendant un peu moins de voitures. C'est donc bien sur la base de notre exploitation renforcée depuis des mois que ces bénéfices se sont accumulés, et ce, à l'échelle de l'ensemble du groupe Toyota. Bien sûr, tout ceci provoque un profond mécontentement, de grosses tensions dans les ateliers et les bureaux. En décembre dernier, lors des discussions sur les salaires, plus de 700 travailleurs se sont retrouvés dans des assemblées sur le temps de pause et il y a eu des débrayages contre le gel des salaires. Et ce, malgré une tentative de chantage de la direction à la liquidation judiciaire. Car ce qui a fait discuter tout au long de l'année et ce qui continue à faire l'actualité dans l'usine, c'est comment l'État français autorise une usine appartenant au numéro 1 mondial de l'automobile à ne pas payer d'impôts sur les bénéfices. Année après année, l'État a autorisé l'usine Toyota d'Onin à présenter des bilans négatifs et à accumuler des pertes jusqu'à plusieurs centaines de millions d'euros. Les voitures produites à l'usine sont vendues 10 000 euros à Toyota Europe. Ces mêmes voitures sont ensuite revendues au public entre 16 000 et 21 000 euros. Cette société, Toyota Motor Europe, est située en Belgique, où l'impôt sur les bénéfices pour les multinationales est limité à quelques pourcents. Même opération pour de nombreuses pièces de la voiture. Par exemple, les moteurs, fabriqués dans d'autres usines Toyota, sont facturés à l'usine française 3 fois le tarif moyen pratiqué dans le reste de l'industrie automobile pour des moteurs semblables. Ainsi, en amont, la facture des pièces est artificiellement alourdie, et en aval, ce qui revient de la vente des voitures assemblées est allégé de plusieurs milliers d'euros par voiture. Et puis, il y a aussi le système des royalties qui permettent à l'usine de Valenciennes d'envoyer entre 60 et 80 millions d'euros tous les ans directement au groupe Toyota sans passer par la case impôt. Tout ça avec l'aval du fisc, des ministres de droite et maintenant de gauche, des commissaires aux comptes et de la direction générale du travail. Le chantage à la liquidation judiciaire a échoué. En fait, les lois commerciales obligent une société déficitaire pendant plusieurs années à une recapitalisation sous peine de liquidation judiciaire. Le chantage au compte négatif de Toyota France à la recapitalisation de l'usine sous peine de liquidation judiciaire a été un bide complet. Pas grâce à l'aide du gouvernement, du fisc ou des commissaires aux comptes, non. C'est grâce aux explications que l'on a données à de multiples reprises que l'opinion générale était hostile au baratin de Toyota. Ainsi, plus la direction avançait des arguments pour convaincre qu'on produisait à perte, et plus l'énervement se faisait sentir dans les ateliers. Aujourd'hui, grâce à une recapitalisation qui n'a pas coûté grand-chose aux actionnaires de Toyota, l'usine déficitaire, d'après la propagande patronale, est miraculeusement devenue bénéficiaire de 28 millions d'euros. Alors, vous comprendrez bien que le 20 avril dernier, quand la direction de l'usine a annoncé une prime de participation aux bénéfices de 250 euros seulement, beaucoup de salariés ont exprimé ouvertement leur mécontentement. Et dans une équipe où cette annonce a été faite par le directeur de l'usine, quelques salariés ont même lancé des pièces de monnaie à ses pieds pour montrer ce qu'ils en pensaient. Un autre épisode qui a montré aux travailleurs comment l'État aide les grands patrons, c'est l'allocation de formation pour l'activité partielle. On assiste actuellement à un renforcement des discours gouvernementaux contre les chômeurs et la mise en place de mesures supplémentaires pour limiter, supprimer des allocations, tout en augmentant les contrôles et les tracasseries pour les travailleurs forcés au chômage. Ça, c'est pour le monde ouvrier. Pour le monde des capitalistes, c'est tout le contraire. Fin avril, surprise sur nos fiches de paye. Il y a des lignes supplémentaires qui indiquent 10 heures de formation au mois d'avril. Mais personne n'a bénéficié de ces 10 heures de formation pour activité partielle. Au contraire, on a tous travaillé et à plein pot. Par contre, l'usine Toyota a bénéficié de 350 000 euros d'argent public, de l'UNEDIC, sans qu'on ait entendu un ministre ni la direction du travail protester pour une formation imaginaire. C'est le beurre, l'argent du beurre, et en plus, la direction nous a retiré à tous autour de 25 euros sur nos fiches de paye pour une formation qu'on n'a même pas eue. Et elle devrait remettre la même chose ce mois-ci pour 5 heures chacun de formation fantôme. On a bien sûr dénoncé tout ça, et ça s'ajoute aux raisons du mécontentement. Alors, le fait que l'appareil d'État couvre les bidouillages financiers, que les ministres accordent des cadeaux de plusieurs centaines de milliers d'euros via les fonds de l'UNEDIC, le fait, plus général, que la politique du gouvernement soit ouvertement au service du patronat, tout cela renforce les cadres dirigeants de l'usine, ainsi que tout ce que l'usine peut compter de militants pro-patronaux, anti-syndicats, anti-grève. Cela les encourage à instaurer un climat de peur, de caserne dans l'entreprise, en multipliant les pressions, les sanctions, les licenciements contre les ouvriers, contre des militants syndicaux, au mépris des quelques lois qui existent encore pour limiter les abus. Tout ça pour faire accepter la loi patronale, celle des profits maximums et de l'exploitation. Et le mépris anti-ouvrier véhiculé tous les jours par ces cadres dirigeants de l'usine, dans leurs propos ou leurs comportements, est en train de contribuer, en plus de l'aggravation de l'exploitation, à l'accélération du processus qui conduira les travailleurs à se défendre collectivement. Et c'est en contribuant à toutes ces prises de conscience que les militants de lutte ouvrière de l'usine travaillent pour inverser le rapport de force.
Voilà, donc Olivier va nous parler de Renault, Renault Flins où il travaille et Renault plus généralement.
Bonjour, bonjour à tous. Moi, je vais intervenir à propos des contrats de travail parce que à ce niveau-là, Renault est, c'est pas le seul, mais un peu à l'avant-garde quand même concernant ce problème-là. Alors, ça fait longtemps que chez Renault, on entend certains des dirigeants tenir des discours sur la remise en cause des contrats de travail à durée indéterminée. Alors, ce ne sont pas les seuls à avoir de telles idées. Les gouvernements de gauche comme de droite, et bien sûr d'autres patrons aussi, essayent dès qu'ils ont l'occasion de s'attaquer à tous les contrats de travail, à les rendre de plus en plus aléatoires et de plus en plus fragiles. Bien sûr, le CDI en premier. Et nous voyons alors autour de nous, eh bien, la précarité exploser et la multiplication de différents types de contrats de travail. Il y a plusieurs années, De Virville, c'est son nom, c'était à l'époque un des dirigeants de Renault, après avoir été au service du gouvernement de Fabius et ensuite après avoir été aussi au gouvernement de Fillon, il a fait un petit tour chez Renault. Il s'est arrêté quelques instants dans cette entreprise, le temps justement de mettre sur pied un projet, et un projet qui s'appelait un contrat de mission. Et ce contrat de mission, c'était en 2004, eh bien, il prévoyait qu'on pouvait être embauché le temps de fabrication d'une voiture et puis après être débauché à la fin de vie, comme ils appellent, de la fabrication de cette voiture-là. Donc le temps fabrication d'une voiture, on pouvait être présent, puis après se retrouver licencié. Ça, c'était en 2004. Et à l'époque, il n'a pas été le seul à mettre sur pied de telles idées. Il y a eu des organismes patronaux, il y a eu des patrons, et bien sûr, aidés par les gouvernements de l'époque. Il y a eu le CDI de performance, il y a eu le contrat de travail unique, il y a eu le CDI nouvelle embauche. Ça, c'était celui de Villepin. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais lui, il a fini dans la rue et il a même fini par démissionner devant le mécontentement que ce contrat-là, que ce projet-là avait suscité, c'est tant mieux. Alors, aujourd'hui, l'idée d'un contrat unique, c'est-à-dire pour les patrons et pour l'ensemble du gouvernement, en fait, c'est plus du tout de contrat de travail. Ce contrat de travail, donc, qui n'existe pas, donc, refait surface. Alors, tous ceux qui défendent ce projet nous disent, la main sur le cœur, que c'est pour le bien des travailleurs, que c'est pour la sécurisation de l'emploi. Et comme il existe une multitude de contrats, donc de travail, il serait temps de n'en faire plus qu'un pour avoir plus de lisibilité. Et pour finir, ils insistent bien sur le fait que pour eux, le CDI serait trop protecteur et le CDD trop flexible. Pourtant, il en existe un contrat de travail. En théorie, c'est le CDI. Mais non, eux, ils veulent beaucoup plus. Alors, sous prétexte de faciliter les embauches de demain, donc il faudrait que les patrons puissent licencier plus facilement aujourd'hui. À les entendre, ça serait même le CDI qui serait un frein aux embauches et qui serait donc une des raisons de l'augmentation du chômage. Alors pour lutter contre le chômage, donc on va licencier de plus belle. Voilà le discours des patrons et surtout et de tous les ministres et de tous les gouvernements donc qui leur servent la soupe. Chez Renault, les dirigeants donc, ont commencé à reparler de ce contrat-là, de ces nouveaux contrats, entre autres au détour d'une réunion, c'était en décembre 2014 à l'usine de Flins. Donc, en réponse à une question sur les embauches, donc bien sûr, ils n'ont pas répondu, mais tout en disant que là, ils attendaient les conclusions des discussions qui ont eu lieu en ce moment entre le MEDEF et le gouvernement et les syndicats. Donc ça se passait donc au mois de décembre 2014. Et il y a eu d'autres discussions à d'autres endroits dans le groupe Renault, où il y a un des dirigeants de Renault qui vantait un des accords qui a été signé en Espagne entre les syndicats et les usines espagnoles Renault, et qui mettait en avant un contrat de 3 ans renouvelable tous les 3 ans. Alors toutes ces attaques contre les travailleurs se déroulent quand même dans un contexte où le recours aux travailleurs intérimaires explose depuis des années. Le contrat d'intérim, qui avant était l'exception, devient en fait la règle. Et le CDI, qui lui a tendance maintenant à être vraiment l'exception. L'intérim est pour l'instant la solution que Renault a retenue pour ne pas procéder à des embauches en CDI. Et cela est vrai dans toutes les usines du groupe. Quelques exemples. Dans l'usine de Sandouville, du côté du Havre, ils sont plus de 900 travailleurs intérimaires pour 1620 salariés Renault. À l'usine de Flins, là où je travaille, actuellement, il y a 1500 travailleurs intérimaires pour 2200 salariés Renault en CDI. Sur les chaînes, en tôlerie, en peinture, au montage, c'est pratiquement la quasi-totalité, 90% des travailleurs en chaîne qui sont intérimaires. Alors pour justifier ce nombre de plus en plus important de travailleurs intérimaires, ils invoquent le motif de surcroît d'activité. Dans une usine, comme par exemple à Flins, où on n'a jamais produit aussi peu de voitures que depuis les années 1960. Alors qu'on en fabrique 100 000, 150 000 ou 300 000 voitures, pour eux, on est toujours en surcroît d'activité. Et même si on n'en faisait que 10 par jour, ils seraient même capables d'invoquer ce motif-là pour l'emploi de tous les travailleurs intérimaires. Alors l'intérim, aujourd'hui, maintenant, ça c'est ce qu'ils disent, leur coûterait de l'argent et même leur coûterait trop d'argent. Alors le contrat de travail unique, c'est-à-dire ce CDD à rallonge, donc serait peut-être une des solutions pour les patrons. C'est moins cher que l'intérim et ça permet aussi de stabiliser l'emploi. Chez Renault, même si on ne voit pas encore naître de tels contrats dans l'usine, on sent que les choses peuvent évoluer très très vite, car les embauches en CDI sont de plus en plus rares. Et parmi les derniers travailleurs qui rentrent dans l'usine, soit ils sont en intérim, effectivement, mais ils ont aussi des contrats jeunes, des contrats retour à l'emploi, c'est-à-dire qu'on met un pied dans l'usine, mais pas les deux, on n'est jamais embauché. Et soit c'est des contrats de qualification, des contrats de professionnalisation, bref, ils ont toute une panoplie pour, euh, pour nous employer, mais jamais en CDI, ou alors très très rarement. Et ce ne sont pas les dernières annonces là que Renault a faites à propos des 1000 emplois, des 1000 embauches en CDI sur tout le groupe qui changent quoi que ce soit, parce que si elles se réalisent, encore une fois, ça sera dans un contexte où ils sont en train d'en supprimer 8260 sur tout le groupe. Alors, que les patrons font tout ce qu'ils peuvent là aujourd'hui pour augmenter la précarité dans les usines, ben, ça n'empêche pas les travailleurs de réagir. Alors, à Flins, on a vu à deux reprises deux petites réactions, mais qui nous ont bien fait au chaud au cœur. C'était des intérimaires qui, sur des tronçons de chaîne, ont arrêté à 100% le travail. Et les chefs eux-mêmes étaient surpris, mais même nous, on était très agréablement surpris par des réactions comme ça. Et alors, on est bien conscient que ce n'est pas un morceau de papier sur lequel il y aura un en-tête CDI que l'on signera qui nous protégera de quoi que ce soit. Quel que soit le contrat de travail qu'on ait, il va falloir qu'on se bagarre pour garder les emplois et surtout faire évoluer la conscience des gars. Qu'en face de nous, on a des patrons et des patrons qui ne s'arrêteront jamais si nous, on n'y met pas un frein à toutes leurs attaques. Alors, des luttes, y en a eu, comme en 1936, où à l'époque, les gars, ils n'avaient pas de contrat de travail. Ça ne les a pas empêchés de se bagarrer. Et il y en a encore aujourd'hui, comme notre camarade Ali nous présentera en Turquie. Et surtout, on espère bien que demain, il y en aura encore davantage. Voilà.
Voilà, donc je passe la parole à Jean-Pierre Mercier, qui de PSA et de l'usine de Poissy.
Bien, les relations entre l'État et la multinationale PSA, encore récemment privée à 100%, sont un bon exemple pour démontrer, pour illustrer que les responsables politiques au plus haut sommet de l'État sont au service des actionnaires et en l'occurrence d'une des plus vieilles et des plus influentes familles bourgeoises françaises. Les travailleurs sont directement touchés par cette politique au service des actionnaires. Ils le sont directement en tant que salariés de PSA, mais aussi en tant que contribuables. La liste des exemples de cette politique anti-ouvrière est très longue et nous avons choisi de ne parler que de quelques exemples qui sont d'actualité pour illustrer cette politique. Comme dans toutes les grandes entreprises en temps de crise économique, pour continuer à engranger des profits, il faut surexploiter le travail de ses salariés. Cela veut dire, entre autres, baisser la masse salariale, baisser la part des salaires dans le coût de fabrication d'une voiture. Cela passe par bloquer ou diminuer les rémunérations des travailleurs, mais surtout, essentiellement, aujourd'hui, tailler dans le vif des emplois. Être moins pour fabriquer autant, voire un peu plus. Et la direction de PSA a depuis peu un langage, un vocabulaire pour illustrer cette politique. Vous savez, elle dit qu'il faut que les usines en France retrouvent un poids de forme, c'est-à-dire qu'il faut maigrir. Parce que quand on maigrit, c'est qu'on avait trop de poids, et quand on maigrit, on est plus réactif, on est plus agile, et du coup, on gagne plus d'argent. C'est le discours officiel. L'objectif de PSA reste encore pour les années à venir, donc de vider les usines de ces travailleurs avant de préparer des attaques sans doute beaucoup plus profondes et beaucoup plus brutales. Après la fermeture d'Aulnay et le plan de 1400 licenciements de l'usine de Rennes, les suppressions d'emplois se font d'une manière moins brutale, par des plans de départ dits volontaires. Pour financer ces plans de départ volontaires, le gouvernement met à la disposition des entreprises comme PSA des mesures financières. Il y en a une qui paye bien, qui paye très bien. C'est le CICE, le fameux Crédit Impôt Compétitivité Emploi. Officiellement, c'est pour la bonne cause. C'est la lutte contre le chômage en aidant les patrons à embaucher. Et le gouvernement a pensé au principal. Aucun contrôle sur l'utilisation du CICE et aucune obligation d'embauche. Alors PSA, immédiatement, a demandé à bénéficier de cette remise d'impôt. Pour les deux années de 2013 et 2014, c'est plus de 180 millions d'euros qui ont été déversés dans les caisses de PSA. Alors on serait en droit d'en tirer le bilan, voir les effets sur l'emploi, combien d'embauches. Eh bien non seulement il n'y a pas eu d'embauche en CDI, mais il y a eu au total, en deux ans, près de 10 000 emplois supprimés, essentiellement des ouvriers de fabrication, mais aussi des techniciens, des ingénieurs. 9500 exactement emplois ont été supprimés, l'équivalent de 3 usines comme Aulnay. Le ratio, c'est 19 500 € de CICE par emploi supprimé. C'est-à-dire que lorsque la direction propose aux plus jeunes un chèque de 20 000 € pour quitter l'entreprise, en fait, PSA ne débourse que 500 € tout en essayant de leur faire croire le contraire. Et c'est la collectivité, l'État, l'argent public, l'argent des impôts, qui finance le plan permanent de départ volontaire de PSA. Et le bilan est dramatique en termes de surcharge de travail, d'augmentation de cadence et de dégradation des conditions de travail. Alors on assiste régulièrement à des réactions, des débrayages d'ouvriers contre le sous-effectif pour obtenir des renforts. Des réactions qui, malheureusement, pour l'instant, ne vont pas au-delà que de quelques débrayages. Ça, c'est pour le côté financement de la cure d'amaigrissement. Mais il y a d'autres mesures gouvernementales que PSA a su profiter au maximum pour à la fois supprimer des emplois, mais aussi pour pallier ponctuellement au manque d'effectifs qui pouvait commencer à lui poser des problèmes dans certains secteurs bien précis. Je veux parler de la mesure du contrat de génération. Ça, c'est aussi une bonne petite mesure qui rapporte bien et qui aide bien PSA. Officiellement, le contrat de génération consiste à embaucher un jeune alternant qui se formera, qui apprendra le métier auprès d'un tuteur pour un départ en pré-retraite d'un ancien. Alors si PSA fait bien partir les anciens, qui n'arrivent plus à tenir les cadences car ils se sont bousillés à la santé après avoir passé plusieurs décennies en chaîne, PSA, d'une part, n'embauche pas un jeune pour un départ, mais plutôt un jeune pour deux départs. Et ensuite, quand la direction parle d'embauche, eh bien, c'est pas d'embauche en CDI, bien entendu. C'est d'embauche en CDD, avec évidemment une promesse en CDI, si la conjoncture le permettra, si le salarié donne pleinement satisfaction, s'il n'est pas malade, avec beaucoup de si, beaucoup de si. Et puis, pour un jeune en alternance, la direction ne paye pas toutes les cotisations sociales, bien entendu. Et à PSA, ce sont pas des jeunes ouvriers qui sont pris en alternance, qui pourraient remplacer les départs des ouvriers de fabrication, mais des techniciens, des ingénieurs, des administratifs. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'ingénieurs, beaucoup de techniciens qui sont plus embauchés en CDI, mais qui sont embauchés en contrat d'alternance. Ils ont simplement un CDD de 2 ans. Donc c'est tout bénéfice pour le patron. Et il se donne en plus une bonne image, alors qu'en vérité, il vide les usines et participe à la hausse du chômage sans que cela lui coûte grand-chose. Mais régulièrement, il faut que la direction fasse des investissements pour de nouvelles lignes de production, de nouveaux robots, pour moderniser et adapter son appareil de production. Et ça, on pourrait se dire que c'est quand même, ça fait partie de son activité régulière, d'autant plus que PSA en a largement les capacités financières. Oui, mais PSA ne raisonne pas avec cette logique-là. Et comme de très nombreux patrons, ils ne veulent pas payer. Ils veulent plus rien payer, de toute façon. Et puis pourquoi payer quand vous avez un gouvernement qui est aux ordres et qui ne demande que de ça, et en plus qui se revendique de gauche. Alors PSA, pour illustrer cet exemple, PSA possède 2 usines de moteurs en France. Il y en a une qui est dans le Nord, la Française de Mécanique, et l'autre en Lorraine, à Trémery, près de Metz. PSA va sortir un nouveau moteur essence qui sera produit essentiellement à l'usine de la Française de Mécanique, mais ayant réduit énormément ses capacités de production dans cette usine, il faut qu'elle trouve une 2e usine pour faire son complément de production. La logique voudrait, évidemment, au niveau technique, au niveau industriel, que ça se fasse à l'usine de Trémery, puisque c'est une usine qui fabrique des moteurs. Oui, mais PSA a une autre logique, celle de faire payer l'État. Et vous allez voir un peu ce qu'ils ont monté de toutes pièces. PSA va monter de toutes pièces un chantage à l'emploi et mettre artificiellement en concurrence 2 usines qui n'ont strictement rien à voir au niveau industriel l'une avec l'autre. Celle de Trémery en Lorraine qui fabrique des moteurs et celle de Vigo en Espagne qui est une usine PSA mais qui assemble des véhicules, ce qu'on appelle une usine terminale comme Poissy, Sochaux, Mulhouse. Et qui ne fait pas de moteur. Donc pour produire le nouveau moteur essence à Vigo, il faudrait il aurait fallu, enfin, il faudrait investir 250 millions d'euros en créant de toutes pièces une ligne de montage de production de moteurs. À Trémery, les investissements sont évidemment beaucoup plus réduits. Les investissements nécessaires sont beaucoup plus réduits. C'est seulement 60 millions d'euros. Mais ça, ça ne va pas empêcher PSA de faire jouer la concurrence en essayant d'y faire participer d'ailleurs les travailleurs de Trémery en leur demandant de porter un autocollant bleu, blanc, rouge avec le slogan « Un moteur pour ma boîte ». Le but étant de tenter de rassembler les travailleurs, d'unir les travailleurs et le patron dans une demande au pouvoir public de mettre la main à la poche pour que le moteur ne parte pas entre guillemets en Espagne, parce que PSA est un patron militant et sur ce terrain-là, il trouve des relais à gauche comme à droite. Et voilà que c'est Hollande en personne, eh bien, qui, entre les deux tours des élections départementales, va venir en personne à l'usine apporter le chèque pour amener un chèque, tenez-vous bien, donc sur les 60 millions nécessaires, eh bien, Hollande, il a fait un chèque, toute collectivité territoriale confondue, de 56 millions. 93% des investissements que Peugeot avait les moyens de sortir pour produire ce nouveau moteur à Trémery, eh bien, il y a 93% qui vont être sortis par l'argent public. Dans les relations entre l'État et les actionnaires, j'aurais pu parler des prêts de plusieurs milliards à des taux imbattables. J'aurais pu parler aussi de la recapitalisation à hauteur de 14%, 3 milliards d'euros, quand les actionnaires cherchaient du cash, comme ils disent, c'est-à-dire de l'argent frais, du liquidité, mais sans toucher un centime des dividendes accumulés depuis des décennies dans leur poche. Après cette entrée dans le capital, le gouvernement se vante d'avoir imposé un contrôleur pour savoir ce qui se passe. C'est Louis Gallois qui a été nommé président du conseil de surveillance de PSA. Eh bien, autant dire qu'il n'a rien fait d'autre que de soutenir et justifier la politique de la famille Peugeot, y compris dans les récents scandales de la retraite chapeau de Varin, que vous avez entendu parler. C'est avec son accord que Varin, l'ex-PDG, a pu toucher sa rente à vie de 300 000 euros par an. C'est avec son accord que Jean-Martin Foltz, ex-PDG de PSA, touche aujourd'hui, chaque année, à vie, et il n'est pas mort, 800 000 euros par an. Et c'est avec l'accord de Louis Gallois que Tavares, l'actuel PDG de PSA, touche 7 500 euros par jour comme salaire, qu'il a eu droit à un cadeau de 130 000 actions gratuites, ce qui fait un petit cadeau de 2 millions d'euros. Mais plus grave, ça touche, car ça touche directement les travailleurs, il justifie, il cautionne les plans de suppression d'emplois, le blocage des salaires. Alors face à toute cette politique menée conjointement entre le gouvernement de gauche et le patron de PSA, les travailleurs n'ont pas d'autre choix que de compter uniquement sur leurs propres forces pour se protéger des attaques. Ils n'ont pas d'autre choix que la lutte collective pour imposer les reculs nécessaires au patron. Alors des réactions, il y en a toujours. Les travailleurs résistent régulièrement, souvent encore très minoritaires pour l'instant. Mais nous sommes convaincus que cela est très loin d'abord d'être à la hauteur des attaques, mais nous gardons une confiance totale dans la capacité des travailleurs, de nos camarades de travail, de se révolter, de se mobiliser et de relever la tête, comme les travailleurs de Renault et plus généralement de l'automobile en Turquie, en ce moment, qui sont en bagarre, et c'est Ali qui va nous en parler.
Alors, la particularité qu'il y a entre l'usine où je travaille à Renault-Flin et l'usine de Boursa, c'est que ce sont des usines sœurs. On y fabrique la même voiture, la Clio 4. Et à ce titre, il y a des contacts entre la direction d'ici et celle de là-bas. Et au même titre, il y a des contacts entre ouvriers de Flin et ouvriers de Boursa. Et c'est donc des témoignages directs que j'ai eu et que je vais vous raconter. Le vendredi 15 mai, un mouvement de grève et d'occupation d'entreprises est parti donc de cette usine qui compte 6000 travailleurs, et ce mouvement a pris de l'ampleur jour après jour. Pour vous situer un peu le contexte, tout d'abord, en Turquie, le système fait qu'il ne peut y avoir qu'un syndicat représentatif par usine. Dans une grande partie de la métallurgie, c'est le syndicat pro-patronal Türk Metal İş qui est implanté. En décembre 2014, ce syndicat a signé un accord pour 3 ans dans les entreprises où il est présent. Ces boîtes de la métallurgie regroupent 110 000 travailleurs. L'accord y prévoit des hausses de salaire d'environ 3%, alors que l'inflation, elle est de l'ordre de 25% par an. Pour vous donner une idée de ce que c'est que cette inflation, par exemple, un travailleur sur chaîne chez Renault gagne 1500 livres turcs. Cela représente aujourd'hui 500 euros par mois. Eh bien, il y a quelques mois, avant la dévaluation de la livre turque, cela représentait 750 euros par mois. Les travailleurs turcs ont donc perdu plus de 20% de pouvoir d'achat. Vous pouvez imaginer ce que cela représente comme difficulté pour vivre. Du coup, depuis quelques mois, un mécontentement sur les salaires traverse tout le pays. En janvier, le syndicat DISC, un peu l'équivalent de la CGT ici, a appelé à la grève, mais le gouvernement a posé une interdiction. En avril, les travailleurs de l'usine Bosch, un sous-traitant de l'automobile, ont tout de même arrêté le travail. Ils ont obtenu des hausses de salaire allant de 12 à 60% d'augmentation, donc véritablement notable. Ce recul de la direction de Bosch a donné envie à d'autres de s'y mettre. Ils s'y sont mis tous ensemble, car en Turquie, la répression est telle que c'est tous ou rien. La lutte a donc démarré chez Renault. Après des années de dictature patronale dans cette boîte, de répression, de licenciement, les travailleurs de cette usine ont repris la lutte pour les salaires et les droits syndicaux et ont commencé cette lutte par des gestes de rébellion. Dans un premier temps, ils se sont laissés pousser la barbe. Eh oui. Ensuite, ils ont fait du bruit à la cantine. Puis, ils ont manifesté dans l'usine, après le temps de travail, et ensuite au centre-ville. À chaque étape de la contestation, les travailleurs ont noué des liens entre eux et se sont soudés. Certains ont commencé à démissionner du syndicat turkish, qui est obligatoire. La nuit du mardi 5 mai, la direction de Renault a fait comme en 2012. Elle a licencié les premiers démissionnaires du syndicat. Mais elle est tombée sur un os. Les travailleurs, suite au licenciement de 2012, étaient vaccinés. L'équipe de nuit a refusé unanimement de rentrer dans l'usine. Alors en pleine nuit, le directeur s'est déplacé en personne devant l'usine paralysée et il a annoncé aux 3000 présents la réintégration des licenciés et pour les salaires, il a demandé un délai de 15 jours pour consulter sa direction française. Pour la première fois, Renault reculait. Les travailleurs ont accepté de reprendre le travail avec un sentiment de victoire et une conscience de leur force. Le 14 mai, la direction a annoncé finalement qu'elle ne céderait rien sur les salaires. Là, la grève avec occupation de l'usine a démarré. L'équipe au travail est restée dans l'usine et d'ailleurs, elle y est toujours. Et les autres équipes se sont réunies devant la boîte et ils ont en permanence le soutien actif de leur famille et de la population en général. Ce même jour, les ouvriers de Tofaş, qui est en fait Fiat en Turquie, qui compte 6500 travailleurs, et ceux de Coşkunöz, une usine d'assemblage de 2000 travailleurs, se sont mis en grève. 3 jours après, ce sont les travailleurs de Mako, 1100, un autre sous-traitant, fabricant de phares, qui s'y est mis. Ça faisait donc 4 usines dans la zone industrielle de Bursa, et toutes occupées jour et nuit, même le week-end, qui étaient en grève, et le nombre total de grévistes a atteint 15 800 travailleurs. Les revendications sur toutes ces usines sont communes. Pas de licenciement, le départ du syndicat mafieux turkish, l'augmentation des salaires comme chez Bosch, soit environ 130 euros. Ce qu'on peut dire, c'est que pour le moment, je dis bien pour le moment, le mouvement se cantonne à des revendications économiques. C'est souvent le cas au début des mouvements. Concernant l'organisation, les grévistes de Renault ont très vite mis en place une structure pour organiser leur lutte. Ils ont élu des délégués d'UET, on appelle ça chez Peugeot, je crois que c'est UEP, c'est des ateliers. Ils ont élu 200 délégués de cette façon. Ils en ont élu 24 autres pour coordonner les différentes équipes. Et ils en ont élu 8 pour représenter l'ensemble de l'usine. Ce sont ces 8-là qui sont les plus en avant. Ce sont eux qui rencontrent les patrons, le préfet, la police, etc. Ils ont comme consigne de ne prendre aucune décision lors des rencontres ou des réunions. Ils doivent faire des assemblées générales et faire voter soit à main levée, soit parfois les cris et les acclamations suffisent. Pour beaucoup, ce sont des jeunes sélectionnés pour leur courage et leur dévouement. Pour vous donner une idée un peu des pressions qu'ils subissent, par exemple, ils ont été convoqués au préfet et le préfet a dit à l'un d'entre eux « Toi, si tu reprends le travail, les autres suivront et ils reprendront le travail. » Lui a répondu « Vous pouvez me couper la tête, il y aura d'autres têtes qui pousseront. Ça changera rien. » Le préfet lui a dit « Eh bien, écoutez, si vous ne reprenez pas le travail, c'est vous qui serez responsable des conséquences à venir de ce qui se passera. » À la suite de cette menace, les travailleurs ont voté de ne plus accepter de se rendre aux convocations de la préfecture. Et ils ont ajouté « Si le préfet veut nous parler, il n'a qu'à venir à l'usine. » Pour le moment, les pouvoirs publics n'ont pas décidé d'utiliser la répression car ils ont peur de l'embrasement et ils ont raison. Le patronat du secteur est coincé car s'il cède, il y a le risque de la contagion. Et s'il ne cède pas, eh bien, il y a quand même le risque de la contagion. D'autant plus que le mouvement parti de Bursa touche maintenant d'autres villes du pays. Ford à İzmit, Türk Traktör à Ankara, Mercedes près d'Istanbul. Il y a aussi Hyundai, Valeo, Delphi, etc. Le mouvement peut se généraliser car au-delà des travailleurs de l'automobile, tous les travailleurs de Turquie ont fait en fait les mêmes aspirations que les grévistes. On ne sait pas encore jusqu'où va aller ce mouvement, mais ce qui est sûr, c'est que pour certains travailleurs, comme ils le disent, bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Ça veut dire plus rien ne sera pareil qu'avant. Et ils ont aussi un message pour vous, ils m'ont dit de vous dire que dorénavant, les véhicules produits en Turquie n'auront pas de marche arrière.
Bon, voilà. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on fasse un débat. Je vais demander aux camarades qui veulent intervenir, soit poser des questions, soit dire leur point de vue. Je leur demande simplement de ne pas être trop long, puisque je pense que généralement, il y a pas mal de camarades qui veulent intervenir. Donc, ça permettra plus de dire ce qu'ils ont envie de dire. Voilà, donc...
Qui commence?
Ok. Ok. Alors, il y a une là. Bon, bah, vas-y, alors. Bah, vas-y, pour l'instant, il n'y a que...
Oui, bonjour. Je suis militant de lutte ouvrière aux usines NTN SNR en Haute-Savoie, des fabrications de roulements pour l'automobile, PSA, Toyota, Renault, enfin tout, toute la clique. Bon, c'est un témoignage là aussi sur l'utilisation par les patrons hein, de la précarité, de l'intérim. Alors donc, on a dans l'entreprise, on n'a jamais encore atteint les niveaux que disait le camarade de Flin. Bon, cela dit, en 2013, la direction employait dans les ateliers une proportion, donc comme il y a 5 sites de production, une proportion allant de 20 à 35% d'intérimaires dans les ateliers de fabrication. Donc, à nouveau, hein, on avait décidé au niveau du syndicat CGT de faire une campagne sur cet abus de la précarité et donc pour l'embauche en CDI des intérimaires. Donc, je vous passe les détails parce que ça veut dire déjà évidemment tract, mais contrôle tous les mois par les délégués des personnels des contrats d'intérim à la DRH, recoupement avec pointage sur chaque machine hein, de qui occupe cette place là pendant quelle période pour mettre en évidence eh bien que la direction abuse hein, de l'emploi d'intérim. Là aussi, c'était sous couvert de surcroît temporaire d'activité, sauf que le surcroît temporaire d'activité, ça fait 20 ans que ça dure dans l'entreprise. Et donc, on a mis en évidence tout ça, avec demande d'intervention aux inspecteurs du travail. Donc, il y a, vu la complexité administrative, il y a un inspecteur du travail pour chaque site. Donc les 5 inspecteurs du travail, suite au dossier qu'on leur avait transmis, avaient mis en évidence 160 postes tenus en infraction de la loi hein, sur le recours à l'intérim. Elles mettaient en évidence que il n'y avait absolument pas de surcroît temporaire d'activité. En particulier, c'était très évident sur un des 5 sites qui travaillent uniquement pour l'aéronautique, les contrats dans l'aéronautique étant au minimum de 5 ans, mais en général de 10 ans. Donc on voyait des surcroît temporaires d'activité sur 10 ans. Voilà où on en était. Donc ils mettaient en évidence 160 infractions. Il y a un des inspecteurs qui, tous faisaient des courriers de mise en demeure à la direction et un inspecteur, comme les courriers restaient sans suite, hein, au bout de 6 mois, un inspecteur était jusqu'à dresser procès verbal, hein, ce qui veut dire donc forcément des suites pénales, normalement en correctionnel, hein, puisque c'est un délit, il faut bien le savoir. Donc là-dessus, quand même, comme en plus, ça crée quand même une ambiance dans l'usine. On a vu des choses, des travailleurs qui se sentaient encouragés dans certains coins, des choses qu'on n'avait pas vues depuis malheureusement des années, c'est-à-dire au moins sur un site, des travailleurs qui spontanément hein, sont venus nous voir pour faire une pétition pour exiger l'embauche de deux de leurs collègues qui, dans le contrat, avaient pas débouché sur un CDI. On a vu également deux intérimaires, pour la première fois depuis longtemps, porter plainte en prud'homme. Bon, tout ça a fait que ça a amené la direction à, finalement, sans le dire, à céder, puisque sur ce site aéronautique, où il y avait à peine 400 travailleurs en CDI et 80 en intérim, eh bien, 6 mois après, on en est à près de 500 travailleurs, donc 100 de plus, et maintenant seulement 3 intérimaires, la différence étant les embauches CDI. Alors, là, ce qui est... Alors, Bon, alors, cela dit, on a bénéficié d'un certain nombre de circonstances favorables. Ça serait trop long d'expliquer ici. Cela dit, on voit aussi rapidement les limites de ces actions. Et là, on en vient au lien de l'appareil d'État avec les patrons, puisque la menace du procès verbal, ça avait été la goutte d'eau qui avait fait reculer la direction. Cela dit, 6 mois après, on n'avait toujours pas de nouvelles de qu'est-ce que devenait ce procès verbal. Parce que la suite logique, c'est que le procureur de la République engage des poursuites. Si vous vous faites choper sur la route en excès de très grande vitesse, les gendarmes dressent un procès verbal, mais la suite, c'est que le procureur va vous convoquer à une audience, parce que c'est un délit. L'abus d'intérim aussi, normalement. Bon, donc, le syndicat s'est adressé par courrier au procureur. La réponse du procureur, le 13 décembre 2014, nous a répondu qu'il classait l'affaire sans suite, entre autres avec l'argument principal de son courrier, c'est que dans le contexte de forte concurrence économique et de marasme de l'économie, il convient, bon, en clair, je le dis en bon français, il convient de ne pas emmerder les patrons. Alors, dans l'entreprise où je suis, la concurrence économique, ça fait doucement rigoler, puisque 6 mois auparavant, NTN SNR s'est fait condamner avec les 3 autres principaux constructeurs mondiaux de roulement par la Commission européenne pour concurrence illicite et au total des 4 constructeurs, il y a eu 3 milliards d'amendes au nom des violations des lois sur la concurrence infligées. Le marasme économique, on en est à des progressions de chiffre d'affaires et de production énormes toutes les années. Donc on voit bien que... là aussi, coïncidence de date, la veille du jour où le procureur a classé l'affaire, l'ex-directeur général l'ex-PDG de la boîte, NTN SNR, mais qui est toujours directeur général... Europe, a été nommé donc la veille membre par Emmanuel Macron, membre de ce que le gouvernement appelle une task force automobile pour favoriser la naissance de leaders français des équipementiers automobiles. Cette task force, il y a 4 personnes dedans en plus d'Emmanuel Macron, le ministre. Les 2 seuls industriels qu'il y a sur ces 4 personnes, ce sont des gens liés à SNR ou de SNR. Donc, avec évidemment, comme enveloppe à cette tax force, 260 millions d'aide publique. Donc là, on a un exemple supplémentaire, où c'est évident que l'encouragement vient de haut et que on a y compris la traduction dans le réel quotidien de ce que ça veut dire des procureurs qui se font les avocats des patrons. Et pour conclure sur cette affaire, là aussi j'en dis quelques mots puisque là. La presse en a parlé la semaine dernière. C'est le même procureur qui donc poursuit en correctionnel une inspectrice du travail d'Annecy pour avoir divulgué des informations sur l'entreprise Tefal, qui est une des grosses entreprises également du département. Et là aussi, c'est significatif. Il y a une journaliste du journal L'Humanité qui a pu interviewer le procureur. Et textuellement, il a dit, c'est l'occasion, cette plainte, cette comparution en correctionnel, c'est l'occasion de faire le ménage dans les services de l'inspection du travail de Haute-Savoie. Donc, moralité, comme le disaient les copains, les travailleurs doivent vraiment compter sur eux-mêmes pour faire valoir leurs droits.
Il y a un camarade, le fil est assez long pour aller là-bas, un camarade qui voulait parler, qui est là-bas, oui, qui a demandé.
Je te donne le micro. Attends, je vais te donner le micro. Trois micros.
Oui, j'ai compris. D'accord. Je ne sais pas s'il est assez long ou si le camarade se rapproche.
Si, ça va être assez long.
Après, il y aura ce camarade là et puis un camarade.
Oui, moi, c'est pour parler un peu de la sous-traitance automobile. Donc, moi, je suis militant lutte ouvrière au Fonderie du Poitou à Châtellerault, dans la Vienne. Et il y a quelques années, en 2011, on a subi un chantage, justement, de l'entreprise Montupé, qui était nos patrons à l'époque, qui voulait nous faire baisser les salaires de 25%. On a dû faire 8 semaines de grève pour empêcher ce mauvais coup. On a été racheté par une entreprise qui aujourd'hui continue le même chantage avec l'accord de Renault. Alors le chantage, c'est l'an dernier la remise en cause des accords d'entreprise, parce qu'au bout de 18 mois, ils peuvent dénoncer les accords d'entreprise et faire le chantage à l'emploi, au salaire. Et tout ce qu'on avait combattu en 2011, aujourd'hui, les patrons, ils arrivent à le refaire d'une autre façon, en passant de la pommade dans le dos des syndicalistes pour essayer de les acheter, de faire signer des accords et continuer à nous mettre la pression. Alors tout ça, ça se traduit par des baisses d'effectifs importants. Je rappelle qu'en 2011, on était quand même 650 et aujourd'hui, on est 300, à peine 350, pour faire plus de fabrication qu'à l'époque. Alors tout ça se traduit par des choses bien concrètes. Les choses concrètes, c'est des conditions de travail aggravées dans tous les ateliers, dans tous les secteurs, des services de maintenance où il y a presque plus d'électriciens, presque plus de mécanos, et tous les services maintenant, ils considèrent les patrons que faut que ça soit rentable partout, faut que les gars, on remet en cause les temps de pause, on remet les temps de casse-croûte, on remet tout le temps, et le temps de travail effectif, c'est l'heure où on embauche, l'heure où on débauche, et il doit pas y avoir de temps mort, et ça doit être les gars toujours au boulot, sans bouger de leur poste de travail, sans rotation de poste. C'est les dégradations à se concrétisent par des choses concrètes pour les travailleurs. Nous, par exemple, depuis quelques temps, c'est les gens qui sont atteints de cancer. Là, la semaine dernière, il y a deux gars qui sont décédés de cancer, dont un militant de la CGT. La semaine d'avant, c'est un gars qui s'est suicidé. Alors bien sûr, les patrons ils disent ça n'a rien à voir avec le boulot. 3 semaines avant, c'est un gars qui s'est fait écraser par un robot et qu'on verra peut-être plus aux fonderies. On ne sait pas s'il récupérera ses facultés. Il a fait 15 jours, 3 semaines de coma. Bon, voilà. Et ça, c'est les choses concrètes. C'est les maladies professionnelles, c'est les canals carpiens, les épicondylites, les problèmes d'épaule, les problèmes. Les gars, ils sont esquintés, ils sont foutus. De toute façon, la retraite, ils la verront pas à 60 ans chez nous parce qu'ils sont tous esquintés avant. Il y a très peu qui arrivent en bon état à la retraite. Bon, c'est ça la réalité. Alors, c'est vrai que les donneurs d'ordre comme Renault, parce qu'on fabrique que pour Renault aujourd'hui, ils mettent une pression énorme sur les sous-traitants et c'est du chantage permanent. Et c'est ça aussi, c'est avec les sous-traitants aussi qui font des fortunes parce qu'ils font baisser les prix des culasses et des carters d'une façon telle que Renault, il fait du pognon sur aussi ses entreprises à lui, mais aussi sur les sous-traitants. Il fait des pressions énormes.
Je te demande d'être un petit peu plus. Vas-y.
D'accord.
Le
dernier petit mot, c'est qu'on a fait aussi, on a affiché des choses sur ce qui s'est passé en Turquie concernant Bursa, les grèves des Turcs, et ça a été très bien vu. Et ce que disent les travailleurs, c'est que qu'est-ce qu'on attend ? Espérons que bientôt on va faire comme eux, et c'est maintenant qu'il faudrait s'y mettre.
Ah, y a un camarade derrière, là, qui avait demandé la parole.
Oui, bonjour, moi c'est Christian, donc je milite à la fraction de l'étincelle et je travaille au Technocentre Renault à Guyancourt dans la région parisienne. Moi je vais être je vais essayer d'être rapide. Je voulais remercier Ali de son témoignage sur Bursa, parce qu'effectivement on a tous les yeux, enfin en tout cas dans le milieu militant, on a tous les yeux rivés sur ce qui se passe là-bas à Renault en Turquie et... on est avide de savoir ce qui s'y passe et de contact là-bas. Juste un petit truc. Moi, je pense que cette grève, elle a quand même... Tu as dit que c'était des revendications économiques, mais elle a quand même un aspect politique. hein, très fort. Déjà dans les revendications, bah, le fait d'être obligé d'adhérer, hein, au syndicat turkish et de choisir sa propre organisation, bah, c'est quand même des revendications quelque part démocratiques, et ils ont bien raison. Et puis l'autre aspect, c'est par rapport aujourd'hui, cette grève, elle nous fait du bien aussi, parce que par rapport à la mise en concurrence, justement, le patronat aujourd'hui cherche, et particulièrement à Renault, comme à PSA, comme dans ces genres de grosses boîtes multinationales, à mettre en concurrence les travailleurs d'un site à un autre, d'un pays à un autre. Chez nous, au Technocentre, eh ben, c'est par rapport à Nissan. Hein, il y a la convergence, l'alliance Renault-Nissan, avec Carlos Ghosn, qui est PDG à la fois de Renault et de Nissan. Et aujourd'hui, bah, il y a effectivement ce qu'ils appellent une convergence Renault-Nissan, où on va essayer de fusionner les organisations. Et il y a cette mise en concurrence. Bah, chez Nissan, il coûte moins cher. Donc l'activité par là-bas, c'est des sentiments effectivement qui sont repris, y compris par les travailleurs, y compris relayés par les syndicats. Hein, on a vu la dernière AG des actionnaires, bah, les syndicats soutenir l'État français, hein, sur l'histoire du droit de vote double, en disant, bah, c'est plus l'État français va avoir de poids, bah, ça permettra un ancrage national, et donc il faut soutenir l'État là-dessus, hein, et de marcher justement dans cette mise en concurrence. Eh bien, justement, la grève de Bursa, elle démontre que l'inverse, que Renault, ce que fait Renault en France avec l'accord de compétitivité, il fait la même chose en Roumanie, il fait la même chose en Turquie, il fait la même chose dans tous les pays, il se passe la même chose chez Nissan, et que notre intérêt, effectivement, eh ben, c'est de les travailleurs de ces pays-là ne sont pas nos ennemis, au contraire, ils sont nos alliés face au patronat, quoi. Et ça, c'est très important. Et l'autre aspect, effectivement, comme a dit le camarade précédemment, les problèmes de salaire chez Renault, ben, on a les mêmes. Hein, ça fait des années qu'on n'a plus d'augmentation, hein, et ça ferait du bien. Effectivement, ils sont en train de supprimer les augmentations générales de salaire chez Renault. Et ben oui, un grand mouvement sur les salaires, comme de ce qui se passe à Bursa, pour obtenir des augmentations générales pour tous, et ben, ça nous ferait du bien, quoi. Voilà.
Oui, bonjour. Je vais poser quelques questions sur Bursa. Oui, allô ? Oui, non, je trouvais ça vraiment très intéressant aussi l'intervention sur Renault Bursa. Et j'avais quelques questions dessus. Je pense que c'est vraiment un mouvement extrêmement fort et intéressant. Le premier, en fait, c'est si Bialecik Metalich ne peut pas être dans l'usine de Renault Bursa. Comment font pour les ouvriers pour s'organiser? Est-ce qu'ils mettent en place des commissions ouvrières, etc.? Quelles sont un peu les perspectives de ce point de vue-là pour l'organisation? Est-ce qu'à terme, Bialecik Metalich pourra entrer dans l'usine? Ou est-ce que les ouvriers vont s'organiser avec des commissions ouvrières, etc.? Une deuxième question que j'avais, c'était en plus là, en ce moment, c'est une période préélectorale en Turquie. C'est si la grève avait changé le climat politique. Et ça m'aurait intéressé de savoir quel est le rapport des ouvriers du secteur de la métallurgie vis-à-vis du militantisme politique et avec les autres partis de gauche en Turquie. Et ma dernière question, c'était aussi de savoir ce qui était envisagé ou prévu comme initiative de solidarité au sein du groupe Renault avec en France, par exemple à Flins ou dans les autres usines, ou même avec la CGT. En solidarité avec la grève en Turquie. Voilà. Et peut-être une dernière question. Il y avait l'idée qu'il y avait d'autres secteurs qui pouvaient rejoindre la grève. Je voulais savoir lesquels, si c'est le secteur textile ou s'il y a d'autres secteurs que la métallurgie qui pourraient participer à ce mouvement.
En fait, en partie, ta question rejoint l'intervention du copain d'avant sur... est-ce que c'est un mouvement politique et derrière il y a l'histoire syndicale. Donc pour résumer les choses pour les copains, il y a les mafieux qui sont le syndicat implanté dont les travailleurs ne veulent plus, et à l'extérieur de l'usine il y a Bialecik Metal dont le copain vient de parler, qui est en fait l'équivalent de la CGT ici. En fait, ce qui est clair, c'est clair et net, sans ambiguïté, l'équivalent de la CGT, les travailleurs n'en veulent pas. D'ailleurs, ces gens-là ne peuvent même pas aller diffuser un tract dans la zone industrielle pour des raisons qui seraient trop longues à expliquer ici. Voilà. Moi, je sais que j'ai lu dans les textes du NPA que les travailleurs le revendiquaient. C'est faux. C'est absolument faux. Bon, ça, c'est la première chose. Alors, pour la suite du mouvement, est-ce qu'ils vont implanter ce syndicat ou pas? Pour le moment, les travailleurs se sont donné les moyens de gérer les choses sans syndicat. Il y a les délégués élus qui sont l'intermédiaire, qui se sont imposés comme les représentants des travailleurs. Mais c'est sûr qu'à long terme, ça va être compliqué. Peut-être que ça se finira par la mise en place de ce syndicat dans la boîte. Mais je vais te dire franchement, enfin presque, c'est pas notre problème aujourd'hui. Là, les travailleurs se sont donné une direction, tout va bien pour le moment. Sur le fait que demander à choisir son syndicat, c'est du coup faire le raccourci en disant du coup c'est un mouvement politique, moi je le ferai pas. Et d'autant plus que je peux te dire que les ouvriers de cette zone industrielle sont les électeurs de l'AKP. Donc politiquement, l'AKP c'est le parti au pouvoir, les islamistes. Donc politiquement, pour le moment, et dans mon topo j'ai bien précisé, pour le moment, le mouvement il est économique. Voilà, c'est des revendications économiques. Évidemment, tout ça, ça peut changer très vite, d'autant plus qu'une partie des délégués sont en lien avec des organisations de gauche. Par rapport aux militants extérieurs, il y a une hostilité. Pour le moment, les travailleurs veulent s'organiser comme ils le souhaitent. Ils empêchent, y compris les militants extérieurs, de venir. Par exemple, ils ont mis en place un service d'ordre qui interdit l'accès à quiconque n'a pas de badge Renault pour s'approcher de l'usine. Et moi, j'ai posé la question au gars là-bas, mais comment vous faites pour empêcher que les flics soient parmi vous? Parce que Renault va leur filer des badges. Eh ben, ils ont fait un truc, c'était jeudi. Ils ont fait une annonce. Ils se sont regroupés par département. Donc, il y a 8 départements. Donc, il y a eu 8 groupes qui se sont constitués. Tout le monde se connaît. Et il y a 6 personnes qui sont restées au milieu. C'était des flics. Donc, ils les ont virés. Sur les autres branches qui pourraient se mettre en grève, là, il y a des déclarations dans des boîtes chez Nestlé, par exemple, qui ont dit si Renault l'emporte, on en sera dans la foulée. Donc voilà, ça déborde largement. Il y a vraiment un climat général sur les salaires. Sur la question de la solidarité, la première chose qu'on a faite, c'est d'y aller, de dire, etc., de voir, d'échanger des informations, etc. Mais la vraie solidarité, ça serait que les usines Renault, etc., en France, s'y mettent. Ben, ça, c'est une autre question. Alors, l'autre petit truc qui est surprenant, c'est que on a écrit un tract à Flins pour raconter la situation en Turquie. On l'a traduit en turc. Toute l'usine à Bursa avait lu ce tract. Donc il y a une soif d'information incroyable. Les gars, ça bouillonne dans tous les sens. Ils veulent savoir, ils veulent comprendre, ils suivent. Bon voilà, c'est comme des fois on le décrit dans des romans. Il y a des périodes où les gens, les choses s'accélèrent. Là, on sent vraiment cette ambiance.
Donc, la parole à camarade.
Oui, c'est sur un aspect des attaques du gouvernement actuel contre les droits des travailleurs. C'est pas le plus important. On a vu avec les contrats précaires, mais vous avez entendu parler de la loi de modernisation du dialogue social. Eh bien, chez Renault, comme d'habitude, ils ont pris les devants et ils ont organisé donc 4 journées au niveau national de discussion là-dessus. Et alors, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils disent, voilà, l'ensemble des délégués, ça nous coûte 14 millions d'euros de manque à gagner, de manque à travailler. Alors, voilà, nous, ce qu'on propose, c'est de réduire de moitié les heures des délégués de base. Donc, tous ceux qui sont dans les ateliers, en fait. Voilà. Mais on ne fait pas disparaître ces heures. Ces heures, c'est 50 000 heures. Eh ben, on va les donner à des super délégués. des délégués permanents. Voilà. C'est en ça que ça touche aussi ce que raconte Ali sur la Turquie. En fait, des syndicats formatés par eux, avec des permanents pour discuter à la place des travailleurs de base. Alors, par exemple, ils donnent des exemples. Il y a quelque chose, chez Renault, il y a eu 384 DGI, dangers graves et imminents, des mesures contraignantes pour les patrons, qui ont été déposées dans les usines. Bah ça, voilà, c'est inacceptable pour eux. Alors ils disent, bah, les dangers graves et imminents, suite à des accidents mortels, des accidents où les gars ont un bras arraché, etc., etc., et ben, au lieu de les traiter dans les usines, ces dangers graves et imminents, bah, on pourrait les traiter ici, à Billancourt, dans les bureaux, entre nous. Voilà. Alors, voilà, c'est ça, la modernisation du dialogue social. Et ce qu'ils voudraient, c'est des syndicats qui soient complètement à leur botte, comme on l'a vu, là, les mafieux de métallistes. Eh bien, nous, on pense, et on espère, et on milite pour qu'ils aient les mêmes résultats qu'à Boursa. C'est-à-dire que les travailleurs, avec ou sans tous ces accords bidons, eh bien, ils vont se battre quand même.
Est-ce qu'il y a un camarade qui veut dire quelques... Non. Bon.
Je veux savoir jusqu'à quand chacun pour soi, les ouvriers, les enseignants, j'ai filmé le 19 de manif. Les enseignants et les territoriaux, pas côte à côte, mais 500 mètres l'un de l'autre. Et jusqu'à quand, s'il vous plaît?
Jusqu'à quand? Je crois que personne ne peut te le dire ici. Mais c'est sûr que c'est ce qu'on souhaite tous les uns et les autres. C'est que les travailleurs se mettent ensemble, ce fameux tous ensemble. Maintenant, il y a des réalités. Et c'est à ça qu'il faut qu'on s'attache. Bon, d'abord, pour mettre des luttes ensemble, ça on l'a déjà dit depuis plusieurs années, il faut que ces luttes elles existent. Et c'est ça le fond du problème. Bon, alors on peut pas dire non plus qu'il n'y a pas aucune réaction. Il y a des réactions. Là, il y a eu la semaine dernière un mouvement dans des hôpitaux importants, enfin relativement importants par rapport à ce qui se passait avant. Il y a des petites luttes à droite et à gauche. Il y a des travailleurs qui résistent comme ils peuvent dans leur usine. Mais évidemment, tout ça, ça fait pas un mouvement d'ensemble. Et pour qu'on puisse se poser le problème d'unifier ces luttes, bah, par exemple, concrètement, à Boursa, oui, quand vous avez une usine qui se met en grève, réellement, bah, ça en entraîne une deuxième, une deuxième. Bon, pas automatiquement non plus, parce qu'il n'y a pas l'automatisme là-dedans, parce que tout ça, ça dépend aussi du niveau de conscience des salariés, de leur organisation et des militants. Et avant de... Bon... Oui, et je voudrais juste te dire sur ces histoires qui étaient discutées de grève politique ou pas, économique. Bon, évidemment, quand il y a une grève importante, ça pose un problème politique au gouvernement qui est en place. Bon, ça, je ne sais pas si le camarade qui a parlé de ça, il est toujours là. Évidemment, ce n'est pas ça dont on discute. Là, pour l'instant, ce qu'on discute, c'est que les salariés se donnent comme objectif des objectifs économiques. Bon, et c'est logique, et on ne peut pas aller plus vite que la musique. Et en plus, qu'est-ce qu'on appelle les objectifs politiques? Parce que bien souvent, ce qu'il y a dans la tête, du moins en France, de militants, quand on y dit qu'il faut des objectifs politiques, c'est pour nous ramener à voter pour les bons sociaux-démocrates, par un biais ou pour un autre, d'abord par le biais du front de gauche et je ne sais quoi, pour atterrir dans les poches du PS. Bon, si c'est ça, une grève politique, franchement, on n'en veut pas. Bon, alors, et l'autre chose, moi je voudrais intervenir sur un aspect, c'est que Jean-Pierre a dit tout à l'heure que dans l'usine de Trémery, hein, c'est bien ça, le patron leur fait porter donc le badge, un badge bleu, blanc, rouge, avec marqué un moteur pour ma boîte. Bon, là, d'une certaine manière, on est au cœur, peut-être pas du problème, mais d'un des problèmes. Que Peugeot, la direction de Peugeot, colle ça. Alors, je ne sais pas si ça marche, j'espère que non. C'était au volontariat, je ne sais pas si ça a marché. Bon, ça n'a pas marché. Mais le problème, c'est que le patron le fait. Alors là, il y a une méfiance des salariés, puis il voit où il veut en venir. Mais le problème, c'est que cette politique-là, nationaliste, de ma boîte, de, etc., elle a été véhiculée pendant des années, et elle l'est encore, par des militants qui se réclament étant du côté des travailleurs ou du mouvement ouvrier. Bon, et c'est ça le piège, parce que par rapport à tout ce qu'on a discuté, le fait que les trusts s'internationalisent, de la délocalisation, de la mondialisation, etc., il y a un réflexe, et un très mauvais réflexe, qui est de dire, bon, bah, on tire la couverture à soi, on se bat, on protège. Bon, alors avec, au départ, un bon sentiment, je garde mon boulot et je protège mon usine, entre guillemets, parce que c'est pas leur usine, c'est quand même l'usine du patron. Bon, ça, on peut le comprendre, et ça, effectivement, il faut qu'on le porte. On défend notre boulot, etc., il n'y a pas de raison. Mais maintenant, il ne faut pas que ça nous entraîne, il ne faut pas que ça entraîne la classe ouvrière sur le terrain du nationalisme. La politique du Parti communiste, il y a des années en arrière, qui était de dire « produisons, produisons français », etc., a contribué aussi à aider et la bourgeoisie et le patronat à foutre dans la tête des ouvriers des conneries. Bon, et maintenant, ça aboutit, alors je dis pas que c'est un lien direct, mais ça aboutit à ce que un pourcentage important de travailleurs se plante complètement dans les élections. Enfin, quand je dis se plante, c'est même pire que ça, et vote pour le Front National, parce que bon, ben, ils voient plus de différence. De toute façon, on leur serine toujours des idées nationalistes. Et nous, les militants révolutionnaires, c'est un des aspects. On doit constamment sortir la tête de l'eau de tout ça et leur dire non, si on n'a pas de boussole dans notre lutte, même dans nos discussions aujourd'hui, eh ben, on ira dans une impasse et on va se planter. Heureusement, les travailleurs eux-mêmes nous rappellent à la réalité, comme aujourd'hui les travailleurs de Boursa, parce que s'il y a une zone industrielle importante du côté d'Istanbul, à Boursa, c'est parce que c'était la volonté justement de cette mondialisation. Il y a une autre zone industrielle qui sont en train d'installer parce que c'est les deux portes d'entrée de l'Europe au niveau de la délocalisation, c'était la Turquie d'un côté et le Maroc de l'autre. Avec à Tanger, une zone énorme à côté du port de Tanger a été refait pour amener des bateaux, des containers énormes, bon, dans le but de ramener les productions à travers le monde. Avec toute une zone franche, Renault est installé. On sait que PSA, ça fait 2-3 fois que ça sort dans la presse, est en train de vouloir monter une usine là-bas. Il n'y aura pas que, il y aura tout un tas de... Mais ça, immanquablement, ça se retournera contre eux, parce qu'on le verra, la classe ouvrière, ils concentreront d'autres centres industriels, ils concentreront la classe ouvrière, les ouvriers, mais eux aussi reprendront le chemin de la lutte. Et ce qu'il faut qu'on dise aux travailleurs qui sont autour de nous, c'est qu'ils ne se trompent pas, et aujourd'hui, l'heure n'est pas au repli dans le pays où on travaille ou dans l'usine où on travaille, l'heure aujourd'hui, elle est... La réponse à la mondialisation, c'est l'internationalisme ouvrier et de reprendre ces chemins-là. Et un des rôles du mouvement ouvrier et des militants ouvriers, c'est justement de le répéter.
Oui, c'était en fait pour répondre. Un des aspects de la question, j'y ai pas répondu, c'est par rapport à la situation. Par rapport au fait que le 7 juin, il y a des élections législatives en Turquie. Et donc, il y a un climat général où les politiciens veulent les voix ouvrières. Donc, pour le moment, toutes les déclarations vont dans le sens de plutôt la solidarité, etc. Il y a même un des partis de gauche qui pousse la démagogie à demander... le SMIC à 1500 euros, etc. Donc, si vous voulez, il y a un climat qui conforte et qui légitime un peu les travailleurs en lutte. Pour le moment, on en est là. Le problème, c'est que c'est à double tranchant parce que une partie des travailleurs, y compris en grève, y compris dans les comités, pas dans les comités, mais dans le service d'ordre, etc., ont des illusions sur le gouvernement. Donc, c'est quand même un problème pour l'avenir. Mais leur détermination est telle que si ça continue Et si ça se développe, eh bien, très rapidement, le chemin de la conscience se fera. Un des jeunes délégués m'a dit, tu sais, quand on a commencé, on savait rien de rien. Eh bien là, on commence à comprendre, on commence à s'organiser, tout devient de plus en plus clair. Et voilà, donc si le mouvement continue à prendre de l'ampleur, eh bien les consciences vont s'éveiller de plus en plus. Et puis, même si ça prend pas d'ampleur, je peux vous assurer que ça a laissé de telles traces que de toute façon, pour l'avenir, c'est vraiment quelque chose de super.
Donc je refais un dernier tour parce que après il faut qu'on laisse la place à un autre débat. Écoutez, je donne la en guise de conclusion entre guillemets parce qu'il n'y a pas vraiment, véritablement de conclusion. À Jean-Pierre, merci.
Bien, écoutez, on a voulu quand même organiser ce forum sur l'automobile. Au moment où on avait décidé de l'organiser, il n'y avait pas les grèves en Turquie. Donc on s'était un peu proposé d'expliquer les relations, d'illustrer les relations entre le sommet de l'appareil d'État, le gouvernement, et puis ces grandes entreprises dans lesquelles on est présent et on milite. Et puis il y a eu ces grèves en Turquie qui ont démarré. Je fais le lien entre les deux parce que vous savez on est tous militants. En tout cas on est tous du côté. On est sur le terrain des intérêts de la classe ouvrière, des intérêts des travailleurs, et très régulièrement autour de nous, on a toujours cette même discussion avec nos camarades de travail, avec les militants des syndicats dans lesquels on est. Mais quand est-ce que ils vont bouger ? Quand est-ce que les gars ils vont bouger ? Quand est-ce que ça va péter ? Quand est-ce qu'on va s'y mettre ? Quand est-ce ? Voilà. Et je suis convaincu que en Turquie. Dans les entreprises Renault, Fiat, etc., il y avait un certain nombre de travailleurs qui se posaient la même question, qui n'en pouvaient plus de ces syndicats mafieux, qui n'en pouvaient plus de la politique de Renault, qui n'en pouvaient plus des salaires bloqués, du fait qu'on travaille toujours plus et qu'on soit toujours moins payé. Et puis ça a démarré. Alors voilà, quand c'est pas dans le pouvoir des militants de faire démarrer de grève. De les faire démarrer, de faire exploser. C'est pas dans nos pouvoirs. Mais en tout cas, c'est dans, parce que sinon ça se saurait. Et là, on les travailleurs et d'autres militants pourraient légitimement nous dire, mais qu'est-ce que vous attendez? Bon. Mais par contre, c'est dans la capacité des militants ouvriers, des militants politiques, de militer sur le terrain de la classe ouvrière, sur le terrain des intérêts politiques de la classe ouvrière. Et c'est de notre capacité, justement, de s'appuyer sur ce qui peut se passer en France. Il ne se passe pas grand-chose socialement, en tout cas au niveau des luttes. Mais là, on a la chance d'avoir des grèves à Renault, qui sont en Turquie, qui sont peut-être en train de s'étendre, qui sont peut-être en train de s'approfondir. Du coup, ça va peut-être changer un peu la donne, changer un peu sur quoi les gars... Les travailleurs là-bas, ils se bagarrent. Notre boulot, ici, dans les usines où on est, en France, la première des choses, c'est de populariser ce qui se passe en Turquie. C'est de dire, là-bas, ils ont décidé de s'y mettre. Et ils ont bien raison. Et en faisant le lien à ce que disait Philippe sur le terrain du nationalisme, oui, nous, les travailleurs, nous n'avons pas de frontières. Les patrons, au niveau de leur pognon, au niveau de l'exploitation... Ils n'ont pas de frontières. Nous, il faut qu'on milite sur cette idée fondamentale que nous n'avons pas de frontières. Que là-bas, ce sont nos frères en Turquie qui militent pour défendre leur peau. Et quand ils militent, qu'ils font grève pour défendre leurs intérêts, ils défendent aussi, immanquablement, nos intérêts ici en France. Et ça, il faut que ce soit des militants politiques qui défendent ces idées-là. Et qui les défendent pour, au final, proposer quoi comme perspective ? Pas une énième combinaison électorale, pas une énième union électorale entre tel ou tel groupe ou tel ou tel parti pour avoir, passer de 1% à 5% ou à 10%. C'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est de proposer et de défendre une perspective qui vaille le coup. Et la seule perspective qui vaille le coup pour les travailleurs, eh ben, c'est ce que font nos camarades, nos frères en Turquie, c'est de se battre collectivement. C'est de faire confiance à personne. Même pas au syndicat qui est en opposition aux entreprises Renault et au gouvernement. C'est de se faire confiance qu'en eux-mêmes, qu'en leur propre force. Et c'est de tirer leur expérience et de leur expérience, eh ben, avancer, poser des jalons, comprendre la situation et se donner les moyens de diriger leur propre grève. Et ça, cette perspective, on est trop peu nombreux dans les usines à la défendre. Cette perspective qu'il n'y a que la lutte collective qui peut être la seule issue pour l'ensemble de la classe ouvrière. Alors, c'est d'abord, immanquablement, malgré le fait que ça soit extrêmement calme en France, c'est de garder une confiance inébranlable dans les capacités de nos camarades de travail, nos collègues de travail, de la classe ouvrière en général, à relever la tête à un moment ou à un autre. Et ça, c'est peut-être ce qu'il y a de plus dur en ce moment. Parce qu'il n'y a rien qui bouge autour de nous. Parce qu'il faut tenir. Et tenir, c'est des efforts. C'est des efforts parce qu'il faut garder les idées claires. Il faut garder cette boussole politique parce qu'on est des communistes. Parce qu'on est des révolutionnaires. Parce qu'on est des marxistes et que ces idées-là, on les a jamais abandonnées parce que ce sont les idées d'avenir. Ce sont les seules qui pourront faire sortir la classe ouvrière de l'exploitation dans laquelle elle est. Et il faut absolument que dans les usines, on les affiche clairement, qu'on les défende et qu'on lâche pas un seul pouce sur ce terrain-là. Parce que immanquablement, un moment ou un autre, bah, il y aura en France ce qui se passera en Turquie. Et il faudra pas rater le coche. Il faudra les faire vivre le plus possible ces grèves. Il faudra aller jusqu'au bout des possibilités du mouvement. Et pour ça, c'est pas naturel, ça, dans la classe ouvrière. Il faut des militantes, des militants politiques en chair et en os qui s'y soient préparés. Une organisation qui s'y soit préparée à ce moment-là pour que ça aille le plus loin possible, pour qu'on gagne, qu'on regagne le plus de terrain possible pour qu'on continue après de partir à l'assaut et de partir à la bagarre. Et ça, c'est la seule perspective qu'on a à proposer à la classe ouvrière. C'est la perspective qu'on essaye de défendre tous les jours dans les usines, dans les bureaux et dans les quartiers parce que c'est la seule perspective qui vaille le coup.
Bon, bah, écoutez, on vous remercie d'avoir participé à ce forum et on vous souhaite une bonne fête. Pour ceux qui le veulent, il y a une petite table de presse avec la brochure de la grève de PSA Aulnay d'il y a 2 ans. Et puis le livre de Ghislaine Tormos qui raconte un peu cette grève aussi.